petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Plus les Français s'orientent vers une nouvelle loi sur la gestion des fins de vie, plus le doute s'installe parmi ceux qui, dans l'opinion publique, veulent bien y réfléchir. Je sais bien qu'en février de cette année, un premier avis de la Convention citoyenne se prononçait en faveur d'une aide active à mourir par une majorité des trois quarts environ. Pourtant, le journal Le Monde titrait les 26 et 27 février 2023 « Fin de vie, deux points, des doutes par-delà les votes ». Eh bien oui, les membres de cette convention citoyenne se félicitent de la qualité de leur débat, mais beaucoup pensent que les votes sur les orientations générales ont été prématurés, car les difficultés à se décider se sont trouvées peu à peu révélées dans les détails complexes de la mise en œuvre, de la fin de vie, et non dans les généralités. Plus grave, la Convention citoyenne n'aura jamais eu à se prononcer sur la mise en pratique prudente, elle se veut prudente, alors que, selon le proverbe, le diable, on le sait, est dans les détails. Les spécialistes en soins palliatifs disent tous que chaque cas est particulier et que les patients en situation d'imminence de la mort changeaient plusieurs fois d'avis quant à leur demande de mourir. À la mi-février, Le Figaro publiait une pétition signée par 13 organisations d'acteurs de la santé représentant 800 000 soignants, pétition qui refuse que médecins et infirmiers puissent intervenir, un tant soit peu, dans un acte de donner la mort. Nous ne sommes plus à l'époque où beaucoup s'emballaient à souhaiter, alors pour les uns, ou à refuser pour les autres, la dépénalisation de l'aide active à mourir. La problématique apparaît de plus en plus compliquée. On parlait d'une loi débattue avant l'été de cette année au Parlement. Or, le 9 mars, le président de la République recevait à dîner diverses personnalités concernées par la fin de vie. À cette occasion, il a lui-même parlé de doute salvateur, et affirmé qu'il fallait se donner du temps. Je tiens à dire à cette occasion qu'une médecin de Narbonne faisait partie du petit nombre de convives du chef de l'État. Il s'agit du docteur Sarah Alioui, spécialiste des soins palliatifs. Déjà, depuis longtemps, une autre médecin de Narbonne, était présidente nationale de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Cette docteure Claire Fourcade, catholique, est invitée très souvent à prendre la parole dans toute la France, mais semble-t-il assez peu en Occitanie, ce qui est paradoxal. Que nous disent ces très nombreux soignants, croyants ou incroyants, qui sont récalcitrants à apporter une aide active à mourir aux patients en fin de vie. Ils insistent sur une évidence qui fait l'unanimité. Il y a déjà une loi qui traite de la fin de vie. La dernière est la loi Clay-Leonetti de 2016 qui, je cite, « autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès », fin de citation, c'est-à-dire autorise de donner de puissants antidouleurs qui peuvent accélérer la mort sans intention de la donner. C'est une côte mal taillée, certes, un peu hypocrite, mais quand même, le but thérapeutique, le geste médical, n'est pas celui de donner la mort. Mais cette même loi de 2016 contient un autre volet très important, celui du développement massif et rapide de soins palliatifs. Il s'agit d'accompagnement empathique et assidu, accompagnement empathique et assidu du malade jusqu'à l'instant de sa mort. Cela implique la création de salles et de lits appropriés avec un personnel spécialement formé. 7 ans après, qu'en est-il ? Pas grand-chose. La loi n'est guère appliquée, même le corps médical a été peu informé, encore moins formé, car les protocoles de sédation profonde ne sont pas vraiment définis. Quant aux soins palliatifs, malgré l'héroïsme de ceux et celles qui s'y adonnent, ils sont assez peu mis en pratique, faute de locaux, faute aussi de praticiens et de bénévoles en nombre suffisant, certes plein de bonne volonté, mais parfois peu formés. Pourtant, des pays comme le Canada montrent l'efficacité des soins palliatifs, d'une part pour calmer la souffrance, mais aussi pour conjurer l'angoisse du patient. Alors, pourquoi légiférer à nouveau alors que la loi précédente n'est pas appliquée et encore moins évaluée? Les spécialistes de soins palliatifs craignent d'ailleurs que la possibilité de décider la mort ne vienne décourager l'acte de s'investir dans les soins palliatifs. Ça se comprend. De plus, la loi 2016 avait l'avantage, et a toujours l'avantage, c'est toujours celle qui est en vigueur, d'entraîner un consensus. Les évêques de France, par exemple, l'ont admise, certes sans enthousiasme. Les soignants sont là pour donner des soins et non pour participer à donner la mort. D'ailleurs, tout le monde sent bien que le problème est là, puisque les plus favorables à l'aide active à mourir font eux-mêmes la distinction entre le suicide assisté, qui est approuvé par 72% des membres de la Convention citoyenne, la distinction entre le suicide assisté et l'euthanasie, approuvé par 66% de ses membres, donc moins nombreux. En effet, dans l'euthanasie, c'est le personnel médical qui clairement donne la mort, a priori demandée par le patient. Dans le cas du suicide assisté, c'est le patient qui se donne la mort. Le personnel médical n'apporte en quelque sorte qu'un appui logistique. Je suis étonné qu'un philosophe comme André Comte-Sponville puisse affirmer dans Le Monde, le journal Le Monde, du 11 mars que l'aide active, je cite, l'aide active à mourir est bien un acte de soin, dès lors que la mort fait partie de la vie. Fin de citation. C'est vraiment un sophisme. Certes, toute vie en ce monde se termine par la mort. Mais justement, par la mort, il n'y a plus de vie biologique. Le cadavre n'est plus un être vivant, n'est pas un être vivant. Donc donner la mort n'est pas un soin. Donner un analgésique est un soin contre la douleur. Mais pour un humaniste et pour toutes les religions, l'euthanasie ne saurait être considérée comme un simple antalgique efficace. Douleur ou pas douleur n'est pas le même dilemme qu'être ou ne pas être. Une revendication très fréquente est celle de pouvoir mourir dans la dignité. Mais quelle dignité ? La dignité relative à l'état de santé et à la dégénérescence. Ou bien alors, la dignité absolue selon laquelle un vieillard grabataire a la même dignité qu'un jeune athlète. La dignité de la personne humaine n'est pas absolue, sacrée, n'est divine. La porte est ouverte alors aux barbaries qui relativisent la dignité des hommes en degrés plus ou moins dignes selon le bon vouloir du décideur. Et peut-on créer le précédent dangereux de la médecine et de la loi, l'une et l'autre, au service de la mort? Peut-on faire des campagnes crédibles de dissuasion du suicide chez les adolescents et favoriser par ailleurs l'euthanasie? L'autre valeur proclamée est le respect de la liberté du patient qui décide de sa vie. Mais quelle liberté ? Celle de quelqu'un en possession de tous ses moyens ou celle d'un patient vulnérable et troublé ? D'autant que le trouble peut venir des proches qui, c'est compréhensible, n'en peuvent plus. Le patient, en demandant la mort, exprime peut-être souvent de façon dissimulée un appel à être aimé, un appel à la solidarité, un appel à la fraternité, que s'efforcent d'ailleurs de prodiguer les acteurs des soins palliatifs, et de l'entourage familial aussi. Certes, il y a les déclarations écrites d'anticipation, où la personne, sans contrainte, il y a aussi des contraintes insidieuses, subliminales, où la personne sans contrainte annonce bien à l'avance que dans une éventuelle situation médicale incurable, elle demande qu'on l'euthanasie. Mais est-on sûr qu'elle sera dans le même état d'esprit quand elle se trouvera au pied du mur, en difficulté de s'exprimer? Oui, Monsieur le Président de la République, le doute est salvateur.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.